Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nous sommes encore au lendemain de notre émancipation véritable. J'entends par là l'affirmation et l'admission dans l'opinion que la femme n'existe pas seulement en fonction de l'homme, mais par elle-même. Et parce que cela ne date que d'hier, les femmes dans la vie politique n'ont pas encore pris pleine conscience de ce qu'elles pouvaient faire. Ainsi s'exprimait Germaine Poinceau-Chapuis le 29 décembre 1949 dans l'émission La Tribune de Paris, consacrée ce jour-là à l'émancipation des femmes au cours de la première moitié du XXe siècle. Germaine Poinceau-Chapuis, qui fut la première femme française à devenir ministre de plein exercice dans le gouvernement de Robert Schuman, au sein duquel elle occupa, entre 1947 et 1948, le poste de ministre de la Santé. La première et la seule femme à occuper une telle fonction, ce jusqu'à la nomination de Simone Veil, près de 30 ans plus tard. Pour dialoguer avec elle, étaient réunis ce jour-là trois autres invités, la pédagogue Maria Montessori, la députée travailliste anglaise Barbara Ann Castle et la comédienne Béatrix Dussan.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Poursuivant la diffusion de ces émissions spéciales sur le bilan du demi-siècle, la Tribune de Paris donne la parole ce soir à quelques femmes représentatives.
L'un des traits les plus originaux des 50 années qui viennent de s'écouler est en effet la révolution qui s'est accomplie dans les rapports entre l'un et l'autre sexe. Presque partout dans le monde, la femme a conquis l'égalité des droits civiques et politiques. On s'est habitué à ce phénomène social, il est rapidement entré dans les mœurs. Il est possible cependant qu'avec le recul du temps, cette première moitié du XXe siècle apparaisse surtout comme le demi-siècle de la promotion de la femme.
C'est cette promotion, c'est cette révolution qui vont être étudiées ce soir.
Sur l'antenne sont réunies...
À Hilversum, Maria Montessori, la célèbre pédagogue, âgée aujourd'hui de 80 ans. La doctoresse Maria Montessori poursuit ses travaux sur la psychologie de l'enfant et les techniques de l'enseignement. Travaux qui l'ont rendue célèbre dans le monde entier.
À Londres, Barbara Ann Castle, députée de Blackburn, sociologue, écrivain, Miss Castle, fait autorité en Angleterre pour les problèmes sociaux et appartient au groupe travailliste de la Chambre des communes.
À Paris, Germaine Poinceau-Chapuis, députée MRP des Bouches-du-Rhône. Madame Poinceau-Chapuis est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est en France la première femme qui soit entrée dans un gouvernement avec le rang de ministre.
À Paris également, Béatrice Dussan, sociétaire honoraire de la Comédie française, professeure au Conservatoire national d'art dramatique. Madame Dussan est aussi écrivain et conférencière.
Clara Candiani va ouvrir l'entretien.
Eh bien, vous le savez, mesdames, le thème proposé pour cette conversation européenne est celui-ci. Ce siècle va avoir, d'ici quelques jours, 50 ans. Il marque, entre autres bouleversements multiples, la promotion de la femme. Dans tous les pays, on peut même dire dans ceux qui sont le plus traditionnellement hostiles à l'égalité civique et intellectuelle de la femme, comme les pays musulmans, elle est maintenant, si elle le veut, médecin, ouvrière, ouvrière d'usine, professeur, avocate ou juge. Je pense que nous sommes toutes d'accord sur ce point. Et puisque vous représentez des formations, des générations, des pays différents, nous allons essayer de confronter nos opinions sur ce point. Je vais demander à Germaine Poinceau-Chapuis de bien vouloir commencer.
En réalité, je pense que la victoire la plus spectaculaire, mais je dis bien spectaculaire, a été la conquête des droits politiques. Et l'on serait ainsi tenté de l'inscrire au premier rang de nos victoires et des chapitres sur la promotion de la femme. Cependant, cette victoire politique n'a eu elle-même tout son sens que parce qu'elle était un couronnement et un achèvement, et qu'elle avait été précédée d'une intégration économique, à mon sens, beaucoup plus importante en profondeur. Mais je me demande cependant si l'aspect majeur qui marque ces 5 ans dernières années n'est pas l'aspect révolutionnaire dans les méthodes pédagogiques. Sur ce point, Maria Montessori est beaucoup mieux placée que moi-même pour répondre.
Eh bien, Maria Montessori, voulez-vous nous dire ce que vous pensez?
Oui, je pense que il y a ce sujet de l'éducation qui est très important et qui est caractéristique de notre siècle. Parce que après la victoire de la femme, doit venir la victoire de l'enfant. C'est aussi une vraie lutte pour la libération de l'homme. Et nous devons regarder bien clairement et avec un profond sentiment ce fait que dans l'âge enfantin, l'homme n'est pas encore libre et qu'il a des pouvoirs qui ne peuvent pas s'épanouir. Et bien ça, qu'est-ce que c'est sinon un nouveau travail, mission de la femme. Et la femme dans ce siècle a fait beaucoup dans cette question. Parce que il y a aujourd'hui une quantité de personnes, de femmes, qui n'ont pas de gloire, de grandes positions éclatantes, mais qui, dans l'humilité de certaines professions qui sont transformées aujourd'hui, lorsqu'elles regardent les petits-enfants d'un côté scientifique aujourd'hui, avec une aide de psychologie, de sociologie, ces femmes-là sont les reconstructrices effectives de l'humanité.
Je pense en effet que la promotion de la femme n'a de sens que si elle est la promotion de l'enfant. Oui. Et qu'elle serve à cette promotion de l'enfant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce que l'on peut dire, c'est que tout l'épanouissement des méthodes actives actuelles à travers le monde, eh bien, on le doit vraiment à Maria Montessori. C'est incontestable.
Tout le monde est d'accord.
Seulement, justement, je voudrais savoir si la libération de l'enfant par la pédagogie est vraiment la victoire de la femme au cours de ses 50 ans et la seule victoire. Je ne pense pas. Quel est votre avis, Dussan?
Il m'est assez difficile de répondre, sauf par des informations qui sont véritablement trop indirectes. Et si je regarde nos milieux de littérature et d'art, c'est un des endroits où, à l'intérieur de la profession même, la promotion est le moins sensible. Parce que des comédiennes, des écrivains, il y a déjà longtemps qu'il y en a. Je vous concède que une comédienne, la profession était extrêmement décriée il y a 50 ans et qu'elle l'est moins, elle est plus ouverte.
Mais enfin, justement, je m'excuse, vous ne trouvez pas qu'entre la condition de la femme d'aujourd'hui et la condition de nos mères, il y a autant de différences qu'entre notre propre existence et celle que menaient par exemple les femmes au Moyen-Âge? C'est un peu excessif, mais c'est à peu près cela.
Oui, mais c'est tout à fait vrai, nous le voyons bien quand nous essayons de ramener nos élèves au comportement des femmes d'il y a seulement 50 ou 80 ans, pour jouer des pièces de cette époque-là. Les robes longues, les souliers étroits, les mains emprisonnées dans des gants, les coups emprisonnés dans les carcans des cols, l'obligation des très lourdes chevelures, autant de choses qui sont totalement disparues, qui étaient comme des espèces de signes d'emblème d'une servitude féminine.
Et puis enfin, il y a 50 ans, une fille de bonne famille qui voulait travailler, qui prétendait faire autre chose que de la broderie ou bien des arts d'agrément, elle se déclassait, c'est un fait.
Oui, enfin, ça faisait toujours un petit scandale, c'est certain.
Enfin, songez que Mrs. Nightingale, Miss Barbara Castle, je m'excuse, je prononce horriblement mal l'anglais. Mrs. Nightingale a été honnie de sa famille pendant des années parce qu'elle a prétendu pénétrer dans les hôpitaux et soigner les malades. Oui. Et on parlait de l'excentrique Madame Dieu la Foi parce qu'elle voyageait seule, qu'elle fumait, qu'elle portait culotte. C'est un peu ridicule, mais enfin, c'était comme cela.
Oui, évidemment.
Et une femme bien. Ben, elle n'allait pas dans un cabaret, même, et je dirais presque surtout, avec son mari, n'est-ce pas?
Oui.
Au fond, en 1900, la femme avait le droit d'être jeune fille, mère de famille, comédienne.
Et encore comédienne, mais je pense qu'il fallait qu'elle le prenne à ce moment-là.
Oui. Et en dehors de ces quatre conditions, il lui restait très peu de choses où manifester son intelligence ou sa personnalité.
Oui.
Et comme il devait y avoir alors, comme aujourd'hui, des femmes intéressées par les sciences, l'économie sociale ou la politique, Germaine Poisson-Chapuis, je me demande comment elles se libéraient autrement qu'en écrivant leur journal.
Oui, bien évidemment. Des femmes écrivaines, n'est-ce pas? C'est encore la même chose. Nous avons Colette, et nous la saluons, nous l'admirons, c'est entendu. Mais on a eu dans votre siècle, on a eu Madame de Sévigné, on a eu Madame de Staël, on a eu George Sand, des comédiennes. Je ne crois pas qu'aucune comédienne à l'heure actuelle arrivera à cette espèce de royauté, de comment dirais-je, d'impériatorat, je ne sais pas comment dire, qu'a exercé Sarah Bernhardt, n'est-ce pas? C'était des métiers qui étaient déjà ouverts. Ce que j'ai pu observer, qui a beaucoup changé, je vais essayer de vous l'expliquer. Nous sommes tous d'accord, et ça a été justement un des aboutissements ou une des transformations qui ont abouti au droit civique de la femme, n'est-ce pas? Nous sommes tous d'accord que l'obligation matrimoniale pesait d'une manière absolue sur la jeune fille. La jeune fille n'avait pas de métier, c'est tout à fait vrai. Et n'ayant pas de métier, il lui fallait se marier. Elle existait à partir du moment où elle était mariée. Elle était jusque-là, n'est-ce pas? C'est bien votre avis, Madame Poinçon-Chapuis, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Elle était en attente, elle ne prenait une existence qu'à ce moment-là. Cette obligation matrimoniale qui pesait sur la jeune fille de bourgeoisie, sur la jeune fille de situation régulière, se répétait dans une espèce de reflet inversé, si je puis dire, dans les professions où on était accoutumé à voir les femmes vivre d'une manière irrégulière, n'est-ce pas? Et alors, ces femmes, même avec de l'avenir dans leur métier, dans leur art, n'est-ce pas, ne semblaient cependant prendre une identité sociale qu'à partir du moment, sauf exception bien entendu, mais enfin qu'à partir du moment où elles pouvaient afficher une liaison, n'est-ce pas, elles aussi ne se situaient dans cette société-là que en fonction de la liaison pseudo-matrimoniale. Et parallèlement au fléchissement de l'obligation matrimoniale légitime, n'est-ce pas, des milieux que nous allons appeler bêtement milieu bourgeois, la femme maintenant a de plus en plus droit à l'indépendance, enfin des milieux d'art, si vous voulez, elle existe davantage par elle-même. Et je crois que c'est une petite contribution assez pittoresque et inattendue, périlleuse peut-être, à ce qui est l'ensemble de la conquête des droits de la femme, le droit à la solitude.
Tout à fait d'accord. Je vais tout de même demander à Maria Montessori si l'émancipation de la femme mariée n'a pas déclenché en quelque sorte l'émancipation de l'enfant. Maria Montessori?
Oui, peut-être que l'enfant, à présent, pour cette chose-là, est justement plus libre parce que il peut s'en aller plus loin de la famille. Mais je pense aussi que cette condition de la femme d'aujourd'hui apporte une nouvelle manière de traiter les enfants, parce que c'est trop difficile de le faire pour une femme de famille.
Oui,
et la femme de famille doit aussi travailler. Elle ne pourrait pas absolument appliquer toutes les grandes choses que dans ce siècle on a préparées pour l'amélioration de la race humaine, pour la santé psychique, mentale, morale de l'homme. Elle ne pourrait pas le faire. Alors, vient le moment où la famille devient un peu différente. Le but de la femme sociale aussi. Et une nouvelle chose commence. C'est que la société doit prendre une espèce de grande maternité scientifique pour les nouvelles générations. Et la mère devient une collaboratrice, une personne qui peut comprendre ce qu'on fait. Parce que c'est nécessaire qu'elle donne aussi cette contribution. Alors vous devez voir tout un cadre d'un changement profond et presque universel de la société humaine. Dans ce cadre, il y a justement la mère qui change un peu son type et l'enfant qui a une autre protection, pas seulement celle naturelle de la mère. Et dans ce sens, la femme, la question de la femme et la question de l'enfant sont strictement liées. La femme est la maîtresse des enfants ou a une éducation scientifique. La mère, c'est celle qui comprend et qui cherche de collaborer. Alors vous voyez, il y a toute une collaboration de la famille et de la société pour sauver cette humanité qui est en si grand péril de dégénérescence, n'est-ce pas?
Merci Maria Montessori. Eh bien, je crois que maintenant le mieux serait de passer la parole à notre Benjamin, Barbara Castel, qui nous parle de cette Angleterre qui a gagné grâce aux suffragettes la bataille des droits civiques de la femme. À vous, Barbara Castel.
Moi, je suis d'accord avec Madame Poinceau-Chapuis que peut-être la chose la plus caractéristique de ce siècle, c'est la victoire des femmes dans le monde politique. Mais de ma part, je trouve que les femmes commencent seulement à jouer leur rôle politique parce que nous sommes seulement, à mon avis, au commencement de leur travail dans la politique. Et pour moi, il me semble que c'est une chose très importante, non seulement pour les femmes, mais pour la démocratie elle-même. Parce que la démocratie ne peut pas être une réalité. Si les femmes ne jouent pas de plus en plus leur rôle, non seulement comme citoyennes avec le droit de voter, mais comme citoyennes qui prennent les responsabilités du gouvernement. En mon pays, par exemple, les femmes sont dans la majorité comme voteurs. Et alors, elles peuvent changer le gouvernement de temps en temps et jouer un rôle très important quand il y a des crises économiques, etc. Mais il me semble qu'il y a un danger, que les femmes ne donnent pas leur vote avec assez de responsabilité parce qu'elles jouent elles-mêmes un rôle pas assez important dans le gouvernement. Par exemple, nous avons seulement 21 membres de notre Chambre des communes en Angleterre qui sont des femmes. Et beaucoup de femmes n'ont pas de devoir que de voter, et alors ça donne un aspect trop irresponsable dans la politique.
Barbara Cassel a raison, il n'y a pas de doute. Mais ceci provient de ce que disait Dussam tout à l'heure. C'est que nous sommes encore au lendemain de notre émancipation véritable. J'entends par là l'affirmation et l'admission dans l'opinion que la femme n'existe pas seulement en fonction de l'homme, mais par elle-même. Et parce que cela ne date que d'hier, les femmes dans la vie politique même n'ont pas encore pris de pleine conscience de ce qu'elles pouvaient faire. Elles sont au départ. Mais il est extrêmement important qu'elles aient affirmé déjà dans cette vie politique leur personnalité. Je souhaite, moi aussi, que leur participation soit de plus en plus effective. Non seulement parce que cela est conforme à la démocratie intégrale, le peuple est fait de tous les électeurs et le corps électoral aussi bien des hommes que des femmes, mais parce que, précisément, les femmes sont dans la société par rapport aux hommes, cet élément complémentaire que les hommes sont d'ailleurs par rapport aux femmes. Et il faut les deux éléments pour faire un tout et une société véritablement exprimée.
Mais oui, je suis d'accord, mais il faut comprendre que ça donne des difficultés dans la famille, parce qu'il y a, il est question de temps. Les femmes, comme mères ou comme chef de famille, n'ont pas beaucoup de temps pour participer dans la politique.
J'ai été très frappée de voir apparaître dans les propos de Barbara Cassel, de Mme Poinceau-Chapuis et de Mme Montessori, des aspects eux aussi complémentaires de la même question. Mme Poinceau-Chapuis, comme Mme Barbara Cassel, disent très justement que éléments féminins et éléments masculins vont composer et doivent composer deux complémentaires de la société. Et nous pouvons alors imaginer, je ne sais pas, socialement, une espèce de couple social, n'est-ce pas, fait des deux éléments masculins et féminins à l'intérieur d'une nation ou d'un groupe de nations. Et j'étais très frappée de voir Mme Montessori aussi parler d'une sorte de maternité collective, si je peux dire, n'est-ce pas? Et il me semble que là surgissent des aspects aussi, enfin des aspects très nouveaux et très frappants. Je reprends le mot que je disais tout à l'heure. Tout cela, au fond, ce sont différents aspects de la conquête de la femme, sa conquête du droit à la solitude. Ce n'est peut-être pas toujours le rêve, mais enfin, quand elle l'est, elle doit être un droit et pouvoir permettre de vivre pleinement. Et si je voulais chercher un signe supplémentaire de la promotion de la femme, je le trouverais dans l'émission qui nous réunit elle-même en ce moment. En 1900, outre qu'il n'y avait pas de radio, on n'aurait jamais pensé à demander à travers les capitales à plusieurs femmes de professions diverses de donner leur avis sur des questions aussi importantes. Je crois que nous pouvons évidemment en ressentir la joie et la fierté.
Et je crois vraiment que le couple social, la maternité collective, ce sont deux formules qui sont peut-être précisément la promotion de la femme, oui.
Maria Montessori, Germaine Poinceau-Chapuis, Barbara Anne Cassel et Béatrice Dussarne se sont entretenues de la promotion de la femme au cours des 50 dernières années.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 29 décembre 1949.